Quand un proche vous dit une parole blessante, ça arrive parfois. Quand un proche vous dit une parole blessante ou vous fait un petit coup bas, qu'est-ce que vous avez envie de dire en retour? Comment vous réagissez en retour? Quand un collègue avec qui vous êtes disputé il y a quelque temps, pas disputé, mais il y a eu un petit froid, d'un seul coup vient vous voir au travail ou ailleurs pour vous demander un service, qu'est-ce que vous faites? Et quand quelqu'un en voiture vous fait une queue de poisson, comment vous réagissez au fond de vous? Ah, c'est des questions qui nous... sur lesquelles notre instinct peut ressortir. Et il y a quelques semaines, on a commencé à voir dans la Bible une personne qui a été un homme selon le cœur de Dieu. Vous vous souvenez? On a vu ça il y a quelques semaines. Kevin, un homme selon le cœur de Dieu dans la Bible. David, et c'est gagné pour Louis. Il s'agit du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, et on va voir aujourd'hui en quoi il est aussi un modèle de justice, un modèle de respect de la parole et un modèle d'honnêteté. Un modèle de justice, on va voir qu'au-delà du fait qu'il soit donc un des plus grands personnages de l'Ancien Testament, qu'il ait écrit plein de psaumes, on en a déjà lu ce matin, le psaume 29 était écrit par David. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme ou une femme au cœur selon le cœur de Dieu? Et sur quel aspect de sa vie il nous faut peut-être copier, imiter David? Et à l'inverse, quels sont les aspects de sa vie qu'il nous faut peut-être éviter? À quoi ressemble un homme, une femme selon le cœur de Dieu? Donc c'est une petite série que nous avons commencé il y a quelques semaines, une série en 4 prédications. Là, il y a quelques semaines, on a vu donc en quoi David était un modèle de patience pour ceux qui y étaient là. Aujourd'hui, on va voir en quoi David est un modèle de justice. À la fin du mois, on verra en quoi David a été un contre-modèle de vie familiale et conjugale. Mais heureusement, nous verrons en juillet comment David a été un modèle de repentance. Et donc voilà, donc cette série, je la tire d'une formation que j'ai suivie en 2021 par Étienne Lermenot du CNEF, directeur de l'Institut biblique de Nogent. Et ce cours s'appelait « David, un berger exemplaire, mais pas impeccable ». Comment être exemplaire à défaut d'être impeccable? C'est un peu notre défi. Et donc ce matin, je vous propose de découvrir comment David aurait réagi si on lui avait fait une queue de poisson en voiture, ou comment David aurait réagi si un collègue mal intentionné était venu lui demander un service. Et je vous propose de partir à la rencontre de David lorsqu'il est poursuivi par le roi Saül. Hop, merci. Hop, et on va aller regarder dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 à la page 208 des Bibles, second 21. 1 Samuel 24, et on est avec David poursuivi par Saül. Il fait un marathon. Et je lis les 16 versets de l'histoire. De là, David monta vers les falaises d'Engedi, où il habita. Et lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vient lui dire « David est dans le désert d'Engedi ». Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il partit à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouctins. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une grotte où il rentra pour satisfaire un besoin naturel. Les choses ne changent pas. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin un peu plus léger. Ça, c'est pas moi, c'est moi qui leur rajoute ça. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül : « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül : « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit : je ne porterai pas la main contre mon seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Pourtant, tu dresses des embuscades pour m'enlever la vie. Et l'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche ? Qui poursuit-il ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une puce ? L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de toi. » Dans cette scène, tout pousse David à se venger de ce Saül, de cet ennemi qui le poursuit sans cesse et qui veut carrément le tuer. Saül a bien compris que le roi qui va lui succéder, c'est David. Et donc Saül cherche à repousser, à contrecarrer cet inéductable scénario. Et pour David, tout pousse à se venger. Son ennemi est enfin à sa portée. Imaginez les enfants, Saül est venu faire ses besoins dans la grotte, dans un recoin, et David est caché à quelques mètres dans la pénombre, et il n'a qu'à donner un coup d'épée, il n'a qu'à appuyer sur « Entrée », et c'est fini de son ennemi et de ses souffrances. Tout pousse David à se venger. On va voir qu'il y a trois choses qui poussent David à se venger. La culture, ses proches et les concours de circonstances. Premièrement, la culture, la mode et la vengeance est la coutume de l'époque. C'est ce que tous font sans hésitation. D'ailleurs, Saül, au verset 20, si on avait continué la lecture, Saül le dit, il le dit, mais je ne comprends pas. D'habitude, quand un homme surprend son ennemi, le laisse-t-il s'en aller sain et sauf ? Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Un ennemi, on le tranche. C'est ça qui se fait. Alors, en plus, là, il s'agit non seulement d'un ennemi parmi d'autres, mais il s'agit du roi qui refuse de laisser le pouvoir. Dans ces cas-là, l'habitude va aller au meurtre, à l'assassinat. Bref, et quand on lit un chronique, deux chroniques, on voit ça plein et plein et plein et plein de fois. La mode est à l'assassinat, si j'ai envie de dire. Et on continue de voir aujourd'hui ce genre d'habitude. C'est d'ailleurs, vous, amateurs de séries Netflix et autres films, c'est à la mode et c'est du pain béni pour les scénaristes. Combien de fois dans les séries, dans les films, la culture, en fait, la vengeance est quelque chose qu'on trouve même noble. Dans combien de films, on se surprend, et moi le premier, hein, on se surprend à se mettre du côté du héros, mais en fait, qui passe tout le temps du film à se venger. Je pense, dans le désordre, le Comte de Monte Cristo. Un pavé comme ça, une histoire magnifique. Et on se retrouve à... Mais au final, en fait, on est en train d'assister à la vengeance d'un homme. V pour Vendetta, Munich, Gladiator. J'adore le film Gladiator. Mais n'empêche que c'est l'histoire de quelqu'un qui va se venger. Et on se surprend à être du côté de celui qui fait le mal. Vous voyez comment notre culture nous pousse à même glorifier la vengeance. David a su résister à la culture de l'époque qui lui disait « C'est ton ennemi, il te faut le tuer. » Tout pousse David à se venger, sa culture, mais deuxièmement également ses proches. Verset 5. Ceux-ci chuchotèrent à David. On s'imagine, on est dans la pénombre de la grotte. Voilà, C'est le moment annoncé qui livre ton ennemi. Vas-y, venge-toi. Ils sont tous là autour de lui, mais vas-y, David. Qu'il est dur de résister au discours des autres. Qu'ils soient mal intentionnés ou soi-disant bien intentionnés. On est tous vulnérables à la pression des autres, au regard des autres, de ceux qui nous entourent, à leur discours. Et un petit mot pour nos jeunes, les ados, les pré-ados, qu'ils soient au collège, au lycée ou ailleurs. C'est aussi une période de la vie où on est particulièrement sensible au regard des autres, à la pression des autres, au discours des autres. Et combien de fois on vous dira qu'il faut agir comme ça, qu'il faut faire telle blague, qu'il faut se comporter comme ça, que pour être bien, il faut faire comme si. Ne me regardez pas, hein, je vous parle pas. Hein. Donc je disais un mot pour nos jeunes. Combien de fois quand vous êtes au collège, on vous dira, au lycée, on vous dira, faites comme ci, faites comme ça. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours se taire, qu'il ne faut jamais réagir. Si on se moque de vous, si on vous harcèle, si on vous maltraite, il faut le dire, il faut le signaler. Mais pas forcément écouter ceux qui disent qu'il faut vous venger, qu'il faut répondre par la vengeance. Et la tentation de la vengeance sera là. Alors David, c'était plus un adolescent. À ce moment-là, bon, il a été ado, mais à ce moment-là, il n'est plus ado, et il a su résister à la tentation de la vengeance. Puisse-t-il être un modèle pour nous également ? David a su résister, troisièmement, à la tentation du concours de circonstances qui ne peut venir que de Dieu. Parce que vous êtes, tous les concours de circonstances viennent de Dieu, n'est-ce pas ? Imaginez-vous, à 2 mètres, de dos, en train de faire sa pose, votre ennemi juré. Et dans votre main, une belle épée à double tranchant. Si ça, c'est pas un beau concours de circonstances, si c'est pas la volonté de Dieu pour vous, là, si c'est pas ça conduit par le Seigneur, un tel concours de circonstances ne peut forcément venir que de Dieu. Je dis ça avec humour. Mais certains, dans nos églises, dans nos milieux évangéliques, sont parfois tellement à la recherche de la soi-disant volonté de Dieu pour un aspect de leur vie, qu'ils vont se précipiter au moindre concours de circonstances comme étant une révélation de Dieu pour eux. À la moindre annonce de travail, à la moindre annonce de maison, au moindre garçon, à la moindre fille qui, aux coïncidences, je l'ai croisé 2 fois cette semaine, ça veut forcément dire que Dieu veut que je sois avec cette personne. Au moindre email qui tombe dans la boîte email pile au moment où vous y pensiez. Alors ça, c'est forcément la volonté de Dieu pour vous. Alors oui, on croit que Dieu est souverain. Oui, on croit que Dieu est à l'œuvre parfois dans les moindres détails d'un email ou d'une annonce. Mais ce passage nous avertit concernant la tentation de considérer tous les concours de circonstances comme des messages de Dieu à notre égard. Et pour David, je crois justement que malgré le concours de circonstances qui s'offrait à lui, la volonté de Dieu pour lui était justement qu'il épargne Saül et fasse preuve de grâce. Pourtant, tout convergeait pour le coup d'épée fatidique. À nous aussi d'être vigilants dans nos vies à ce sujet, et si vous voulez rechercher la volonté de Dieu, je vous encourage à le faire dans la prière et dans la lecture, plus que dans le moindre alignement d'événements ou de planètes. Si vous voulez rechercher la volonté de Dieu, faites-le dans la prière et la lecture. David est un modèle de justice. Il a su résister à la tentation de la vengeance à travers la culture, à travers ses proches, à travers les circonstances. Il est un modèle de refus de la vengeance. Mais qui est-il ? Qui est David ? Pourquoi il a réagi comme ça ? Est-ce que c'est un lâche ? Est-ce que c'est un trouillard ? Ou alors un pacifiste, un 68-art ? Pourquoi il a refusé de tuer Saül dans cet épisode au chapitre 24 ? Ou alors au chapitre 26, vous en souvenez ? Chapitre 26, c'est le moment où il descend dans le camp endormi de nuit. Il va récupérer la lance et la cruche de Saül et il ressort. Pourquoi il a refusé de le tuer ? Deuxième partie, David n'est pas un lâche, n'est pas un trouillard. Alors, ok, dans l'épisode de la grotte, il a fait que rester caché au fond de la grotte. Il a quand même, bon, quand même, hein, il s'est avancé, il a quand même coupé le bout de manteau. Bon, ça, peut-être que j'aurais pu le faire. Par contre, dans au chapitre 26, quand il s'introduit en plein milieu du camp de nuit avec, vous imaginez, les centaines de, les 3000 hommes, ils étaient, hein, 3000, donc les milliers de personnes endormies, là, par contre, descendre au milieu du camp, aller récupérer la lance et la cruche, ça, j'avoue, je pense que je ne l'aurais pas fait, moi. Est-ce que David est un lâche ou un trouillard? Non, il n'est pas lâche, il n'est pas trouillard. Il n'est pas un pacifiste non plus. Peace and love. Il n'est pas non plus un pacifiste qui est contre l'usage des épées et qui manifeste contre l'usage des épées. Manier l'épée ne lui fait pas peur, donner la mort ne lui fait pas peur. Demandez à Goliath son avis. Demandez à Goliath si David est un lâche et un doux rêveur. Demandez aux Philistins si David est un trouillard. Et je pense qu'ils vous répondront. David, si David a refusé de se venger de Saül dans la grotte ou dans le camp endormi, c'est ni par lâcheté, ni par faiblesse, ni par pacifisme, ni par sympathie. Parce qu'après tout, Saül était chouette. Et non, Saül, il en a fait des crasses, hein. Il en a fait des crasses à... Il lui a cherché des noises, il a passé son temps à lui mentir, à le trahir, à chercher à le tuer. Donc c'est pas par amitié, parce que finalement, il est plutôt sympa, notre ami Saül. Pourquoi David a réagi comme ça? Pourquoi il n'a pas voulu se faire justice lui-même? Alors il le dit, vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas mettre la main contre toi, car... Tu es loin, tu es celui que Dieu a choisi. Alors, c'est vrai hein, que Dieu a choisi Saül à un moment. Entre-temps, son esprit lui a été retiré. Mais David, Saül reste celui qui a été choisi par Dieu. Un peu comme un ancien président de la République, même s'il n'est plus en mandat, ben n'empêche qu'on peut, on peut pas atteindre à sa vie comme ça. Si, vous voulez assassiner un ancien président de la République, la personne, elle reste encore dans un sens dans sa fonction. Et David ne veut pas se prendre, même s'il il sait que Saül n'est plus celui que Dieu a choisi, mais il reste celui que Dieu a choisi, tel un ancien président de la République qui a encore toute la protection autour de lui. Et David est un profond croyant. Il est animé par trois convictions. La première conviction, c'est la crainte de l'Éternel. David a une profonde crainte de l'Éternel. Et David préfère endurer la persécution plutôt de courir le risque de peut-être éventuellement s'opposer à Dieu en s'en prenant à celui qui a été choisi. Il ne veut pas prendre de risque. Tellement il a une profonde, une belle crainte de l'Éternel. Cette conviction est si ancrée en lui qu'il résiste aux pressions de son entourage, aux pressions de la culture, aux pressions du concours de circonstances qui pourtant lui dit « Go !» Psaume 111, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si vous craignez l'Éternel, à partir de là, tout le reste pourra découler. Deuxième conviction que David a et qui le motive à ne pas donner ce coup d'épée, c'est que David a une paisible certitude quant à son avenir. Il sait à quoi Dieu l'a appelé et il sait à quoi Dieu le destine. Si l'Éternel l'a désigné comme futur roi d'Israël, alors quoi qu'il arrive, ça va avoir lieu. Pas de panique, pas de stress, pas d'urgence. Dieu a décidé, Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, rien à craindre. Quels que soient les ennemis, quels que soient les péripéties, quel que soit le nombre de grottes dans lesquelles il faut se cacher, David sait ce qui l'attend. Tôt ou tard, je serai roi, se dit David. Et cette paisible certitude de David témoigne de la connaissance qu'il avait de Dieu et de sa théologie. Il croyait en la souveraineté totale de Dieu. David croyait en la souveraineté totale de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris de lire au psaume 37, sous la plume de David, « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » On n'est pas surpris de lire ça sous la plume de David. David était confiant et il savait à quoi Dieu le destinait. Et de la même manière, nous savons à quoi Dieu nous destine. Troisième conviction de David, qui le motive et qui est le fruit des deux premières, une haute conception de la justice. David sait que c'est l'Éternel qui lui rendra lui-même justice. Verset 13, que l'Éternel soit juge entre toi et moi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi je ne porterai pas la main sur toi. Il ajoute d'ailleurs au verset 21, comme ce proverbe dit, du méchant vient la méchanceté, mais moi je ne porterai pas la main sur toi. Au fond, David sait que s'il cède au désir de la vengeance, même sous couvert de légitime défense, s'il cède à cela, il se mettra du côté des méchants, comme David, comme Saül. En effet, le risque de tout homme, de toute femme, qui est acculé par un ennemi, c'est de finir par lui ressembler en utilisant les mêmes méthodes. Mentir pour rétablir une situation compliquée, crier plus fort que celui qui vous agresse, taper plus fort que celui qui vous tape, mentir à celui qui vous a menti, faire couler le sang de celui qui en veut à votre vie, faire une queue de poisson à celui qui vous avait fait une queue de poisson. Quand une personne cède ainsi au jeu de son adversaire, c'est qu'il a été contaminé par l'adversaire avec un grand A et que le mal l'a rendu méchant à son tour. Et David ne veut pas être rendu méchant à son tour en employant les mêmes méthodes dont il est victime. Et on peut avoir la tentation, encore une fois, de, sous couvert de légitime défense, de réagir avec les mêmes armes, la même méchanceté dont on est victime. Je pense tout simplement au mensonge. Mentir parce qu'on nous a menti. Match nul, non ? C'est pas comme ça que ça marche. David est un modèle, car quand il doit lui être fait justice, lui qui pourtant est appelé à rendre justice, à être chef de la nation, lui, il ne cherche pas à faire justice lui-même, mais il s'en remet à celui qui est plus grand que lui, Dieu lui-même. Dieu seul est juste, Dieu seul est juge, et c'est notre troisième et dernière partie. Troisième et dernière partie, Dieu seul est juge, Dieu seul est juste. Car David, c'est un modèle de justice, un modèle de refus de la vengeance, un modèle d'honnêteté, un modèle de... On pourrait voir plein de choses sur David. Mais pourtant, le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, c'est pas « Te ressembler David est mon espoir suprême ». Non, je crois pas. David n'a pas été sans faille pour autant. Et même ses grandes qualités se sont avérées parfois être des qualités ambiguës, et se sont retournés contre lui. Et de nouveau, on comprend que David, animé par son désir, par son attente de voir la justice de Dieu s'accomplir, eh ben, parfois, peut-être qu'il n'a pas pris les décisions qui auraient été les siennes. Il n'a pas agi comme il aurait dû agir. Et s'en attendre, s'en remettre à Dieu, ne veut pas dire rester les bras croisés de manière passive. Et quand on voit ses nombreux fils qu'il a eus, et il n'a laissé aucun droit de primogéniture bien établi. Quand on voit les guerres de succession qui ont suivi son règne, quand on voit le laxisme qu'il a fait preuve envers certains de ses hommes, on pense à Joab qui a été inutilement violent. Quand on voit cela, on se rend compte que David, il s'attendait à ce que justice de Dieu soit faite, mais peut-être qu'il a laissé traîner un peu trop certains dossiers et certaines affaires. Il s'est caché derrière son attente de la justice de Dieu et est resté les bras croisés et n'a peut-être pas vu les décisions qui auraient dû être les siennes. Et peut-être que Dieu voulait qu'il prenne certaines décisions en tant que roi, en tant qu'homme, en tant que mari. Et si vous vous attendez à la justice de Dieu dans votre vie, excellent, mais ce n'est pas une raison de nouveau pour rester les bras croisés, ne pas prendre certaines décisions. Nous aurons l'occasion d'y revenir début juillet, quand nous verrons en quoi David a été un contre-modèle de vie familiale et conjugale. En attendant, l'imperfection de David nous encourage à nous tourner vers le meilleur des modèles. J'ai nommé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a été frappé, Il s'est humilié sans dire un mot, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, nous disait déjà Isaïe 53. Mieux que David. Et quand il a ouvert la bouche pour parler de ses ennemis, Jésus a fait à son père une prière incroyable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus, dans sa pleine humanité, dans sa pleine divinité, a su faire preuve d'une patience, d'une foi, d'une justice mille fois plus grande. 10 000 fois plus grande que David. David est un modèle de justice, mais Jésus-Christ est le modèle de justice dans son attitude envers ses ennemis, dans sa confiance que Dieu, son Père, le gardera quoi qu'il arrive et qu'il saura le délivrer de la mort, même de la mort sur la croix. Et si Jésus, Dieu le Fils, a su ne pas se venger de toutes les personnes, de tous les ennemis qui en sont pris à lui pendant sa vie, c'est de nouveau qu'il avait en tête quelque chose de bien plus grand, qu'il avait en tête le plan magnifique que Dieu le Père était en train d'accomplir à travers lui. Et je cite Romains 5, « Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterons de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà laquelle était la motivation, la conviction de Jésus et ce pourquoi il n'a pas répondu à ses ennemis, mais au contraire les a aimés au point de donner sa vie pour lui. Alors nous avons dans la Bible, vous l'avez compris, on va conclure, mais nous avons dans la Bible plein de personnes qui sont des modèles de justice. Ultimement Jésus-Christ, on ne cherche même pas à faire la comparaison, et à moindre échelle, David, l'apôtre Paul, Ruth, et on pourrait continuer la liste ainsi. La question est de savoir ce que vous allez en faire, ce que nous allons en faire de tous ces modèles. Et savoir si nous aussi, on va devenir à notre échelle un modèle de justice dans notre entourage. Voilà, sans grande prétention, on n'est pas à notre échelle. Hein. Est-ce que nous sommes connus par nos collègues, par nos voisins, par notre conjoint, par nos enfants, comme des personnes qui pratiquent et qui respectent la justice. Je ferai un sondage avec mes filles plus tard. Comment allez-vous réagir la prochaine fois que ce fameux collègue avec qui vous vous entendez peu viendra vous demander un service ? Ça m'est arrivé il y a un an, ça m'a coûté. Ou la prochaine fois que quelqu'un dans votre classe, un tel camarade, qui sera dans la galère, viendra vous demander de l'aide, lui qui la dernière fois ne vous avait pas aidé. Oh, c'est tentant. C'est très tentant. La prochaine fois que quelqu'un à l'église vous brusquera, et alors là, que votre imagination fertile vous donnera mille manières de lui renvoyer la balle de manière plus ou moins fraternelle et subtile. Ah, notre imagination, elle est douée hein, là-dessus. Hein. Comment vous réagirez ? La prochaine fois que votre conjoint aura une parole un peu blessante et que vous aurez l'occasion de lui renvoyer l'appareil ou de bouder, comment réagirez-vous ? Romains 12 nous dit « Ne vous laissez jamais dominer par le mal » mais au contraire, soyez vainqueurs du mal par le bien. La balle est dans notre camp. On a pléthore de modèles à nos dispositions dans la Bible. La balle est dans notre camp. Je ne parle pas de balle à Roland-Garros, je parle de bien la prochaine fois où nous aurons l'occasion d'être vainqueurs du mal par le bien. Comme David, chers amis, comme David, ayons une crainte, une profonde crainte de l'Éternel. Ayons une crainte de Dieu plus grande que celle des hommes, de notre collègue, de notre conjoint ou de je ne sais qui. Ayons une crainte de Dieu. Comme David, soyons paisibles sur notre avenir. Nul ne peut nous arracher de sa main. Dieu est souverain et tout-puissant et pas un cheveu ne tombera de votre tête sans même que Dieu le sache. Alors, soyez paisibles sur votre avenir. Personne ne peut vous arracher de sa main. Et enfin, comme David, ayez une profonde estime de la justice. Et nous ne voulons pas ressembler à nos adversaires. Nous ne voulons pas répondre par le même mal. Nous ne voulons pas leur ressembler. Nous voulons ressembler à Jésus, pas à nos adversaires. Et que Dieu nous fasse justice ici-bas ou un jour là-haut. Quoi qu'il arrive, nous savons que Dieu est juste et nous rendra justice tôt ou tard. Peut-être ça sera ici-bas, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Dieu rendra justice un jour à tous. Tôt ou tard, c'est Dieu qui rendra justice. Il rendra justice pour notre défense. Il rendra justice pour nous défendre si nous avons été lésés, victimes. C'est ce que nous croyons. Mais est-ce que Dieu rendra aussi justice si un jour nous avons été nous-mêmes, c'est nous qui avons été par contre le Saül, l'agresseur, le maladroit, l'imparfait, le violent, le moqueur? Ah, là aussi Dieu va rendre justice dans ce sens-là? Parce que moi je veux bien un procès où je suis à mon... où je... voilà tout ce que... à mon bénéfice, mais que se passe-t-il si ça vous arrive un jour d'être moqueur, maladroit, rebelle, de ressembler plus à Saül qu'à David? Que celui à qui c'est jamais arrivé me jette la première Bible. Dans ces cas-là, que cette perspective qu'un jour Dieu rende pleinement justice vous pousse à demander pardon le plus tôt possible et à plier le genou. Dieu fera justice un jour à tous, dans un sens comme dans l'autre. Mais bonne nouvelle, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je conclurai là-dessus. Justice a déjà été rendue en Christ. Justice sera un jour rendue. Justice a déjà été rendue, justice sera rendue. Et donc en conclusion et en attendant ce grand jour, soyons toujours vainqueurs du mal par le bien. Imitons David pour son sens de la justice, mais imitons surtout notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul est le modèle exemplaire. Et nous poursuivrons donc cette série sur David dans quelques semaines. Nous verrons que si David a été un modèle de patience, un modèle de justice, il a par contre été un contre-modèle dans sa vie familiale et conjugale. Ce que nous verrons dans quelques semaines, et je vous invite à la prière en attendant. Seigneur, toi seul es juge, toi seul es juste, toi seul es parfait, toi seul est capable de juger juger le méchant et de défendre celui qui est attaqué. Seigneur, voilà combien de fois nous reconnaissons être nous-mêmes, peut-être aussi parfois le responsable et pas toujours blanc comme neige, et nous voulons plier le genou, nous voulons te demander pardon, nous voulons t'implorer. Nous savons qu'en Jésus-Christ, tu as pris sur toi le châtiment qui aurait dû être le nôtre et tu nous offres ce pardon. Justice a été rendue. Et voilà, et en attendant du jour où la justice sera pleinement rendue, nous voulons ne pas nous laisser contaminer par les méthodes de l'adversaire, nous laisser contaminer par le péché. Nous voulons également, nous aussi, avoir une crainte de toi. Nous voulons avoir une confiance en notre avenir. Nous voulons avoir une haute estime de la justice. Puisses-tu, Seigneur, nous donner d'être des modèles de justice à notre échelle, dans notre entourage, envers nos collègues, nos conjoints, nos voisins, les autres automobilistes ou j'en sais rien. Voilà, Seigneur, transforme-nous à ce sujet jour après jour et en attendant le beau jour où nous serons face à face et nous pourrons te contempler et justement goûter à la justice parfaite que tu rendras en Christ. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Amen.